RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
RMC, face aux grandes gueules.
Et plus précisément, allée de la Reine Marguerite, puisque c'est là-bas qu'elle travaillait. Stella Rocha, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour.
Souvenir d'une Brésilienne au bois de Boulogne, c'était un livre aux éditions Le Cherche Midi, écrit avec Yanis Eziadi, qui est avec nous. Bonjour Yanis.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est que cette allée de la Reine Marguerite précisément alors?
Alors tout d'abord, je voulais juste vous rectifier quelque chose, parce qu'en fait, j'ai regardé dans la publicité, vous avez dit que mes parents m'ont chassé de chez moi. Par rapport à ma homosexualité.
Oui.
C'est pas du tout.
À Belém, vous êtes né à Belém. Vous avez quitté un milieu.
Voilà.
Où on refusait votre homosexualité au Brésil.
Non, pas du tout. Mes parents.
C'est ce que j'ai vu.
Mes parents, ils n'ont pas accepté mon choix, mais bon, ils ne m'ont pas expulsé. C'est moi qui est parti de mon propre choix. Voilà. Mm-hmm. Mais ça, je vais vous parler dans un autre livre qui va sortir peut-être bientôt.
D'accord.
Voilà.
Alors, justement, avant d'aller sur l'allée de la Reine Marguerite, vous aviez 15 ans, c'est ce que vous dites. Vous êtes né à Belém, au Brésil. C'est ça, dans une famille où vous étiez 10 au total,
voilà,
avec un père qui était très sévère. Et lorsque il a découvert votre homosexualité, c'était plus possible, en fait. En fait,
mon père était policier. Et c'est vrai que dans la famille de la police, accepter ce genre de choses, c'est pas évident. Mais bon, ils ne m'ont pas expulsé, au contraire. Ils m'ont gardé, mais j'avais des règles à respecter. Voilà. Mais bon, ça c'est mon enfance.
Et pourquoi êtes-vous arrivé à Paris à 20 ans alors?
Ben, je suis arrivé à Paris par rapport à justement par rapport à ma liberté. J'ai toujours aimé la France. J'ai toujours eu cette passion pour la France. Et pour moi, la France est un pays de liberté. C'est là où je pouvais être vraiment qui j'étais, qui je suis. Voilà.
Et vous vouliez devenir femme?
Ben, ma transition, ça commençait déjà au Brésil. Hein.
Mm-hmm.
Ça a commencé déjà au Brésil et puis en France, j'ai tout fait, mes seins, mon corps et voilà.
Et comment vous êtes tombé dans la prostitution alors?
Ben en fait, quand je suis venu à Paris, je suis venu vraiment pour faire du tourisme, vous voyez, pour faire du tourisme, parce qu'à ce moment-là, j'étais en Guyane française avec ma famille. Et puis voilà, j'avais plus d'argent, je me trouvais dans une situation très compliquée, en habitant chez des personnes qui ont gentiment m'hébergé. Mais bon, après ensuite, j'avais plus d'argent pour même pas pour changer mon billet d'avion pour retourner en Guyane française. Donc du coup, voilà, un ami à moi, il m'a dit, voilà, je connais un endroit qui s'appelle le bois de Boulogne, et puis les gens vont là-bas, les filles se mettent là-bas, et puis les hommes, tu fais un petit service aux hommes, et puis voilà, t'as de l'argent.
Donc, voilà. Pourquoi vous avez accepté?
J'ai accepté parce que j'étais déjà c'était mon choix d'accepter et puis j'étais dans une situation très compliquée, très difficile. J'arrive, j'étais toute seule en France, à Paris, je connaissais une seule personne, j'avais même pas l'argent pour manger, j'avais rien du tout. Voilà, donc il y a eu cette solution qui est apparue devant moi, donc je l'ai prise.
L'allée Sainte-Marguerite, c'est de la Reine Marguerite, c'est quoi Sainte-Marguerite? La Reine Marguerite.
L'allée de la Reine Marguerite, c'est le nom de l'avenue dans laquelle on travaillait au bois de Boulogne. Voilà.
Ouais. Combien de personnes là-bas?
Oula, c'est pas évident, moi je comptais pas. Hein.
Non mais à l'époque de Stella, on a retrouvé, il y avait à peu près 500, 600 filles.
Ouais, voilà, c'est ça.
Enfin, c'est que des transsexuels et travestis, hein, mm-hmm. Il faut bien
préciser. On est dans quelle année là, à ce moment-là?
1990. 93 en fait, en réalité.
93.
D'accord, et quel est le comment ça se passe? C'est le jour, c'est la nuit, comment ça se passe ça?
Ben en fait moi au début quand je suis arrivé, j'avais un visa de 3 mois, donc j'ai atterri là et puis c'était pas du tout évident déjà pour avoir sa place. Je me suis dû me battre pour avoir ma place, je me suis battu et puis partout dans le bois il y a un propriétaire. La rue avait un propriétaire, à l'intérieur du bois, même les arbres avaient des propriétaires. Donc voilà, moi je suis arrivée complètement innocente, je connaissais pas du tout ce milieu-là, ce monde-là, c'était pas du tout le mien.
Mais qui vous a guidé là-dedans?
Mais justement, c'est mon ami qui m'a accueilli quand je suis arrivée en France, qui m'a accueilli chez lui, voilà, qui habitait à Torcy, voilà, Bradley qui s'appelait à l'époque. Et puis c'est lui qui m'a amené, parce que sa famille d'origine colombienne habitait déjà en France, à Torcy, depuis des années.
Mais vous ne connaissez pas le bois de Boulogne du tout.
Voilà, non. Il n'avait jamais été. Il a entendu parler de cet endroit-là, où lequel les filles allaient là-bas, et puis les messieurs gentiment lui donnaient de l'argent.
Et quel type de clients, alors, venaient au bois de Boulogne?
Il y a du tout, hein. Il y a de tout, de tout genre, de tout style, que vous pouvez imaginer.
Vous avez eu des célébrités déjà?
Est-ce qu'il y a eu des célébrités?
Écoutez, vous savez, dans ce, dans, dans ce monde-là, vous savez, c'est tellement hypocrite. Je vois très bien à la télé parfois des politiciens qui parlent mal de la prostitution. Mm-hmm. Or, si vous voulez, je peux vous donner la liste des politiciens, des journalistes, des acteurs,
que vous avez
des chanteurs que j'ai comme client. Mais ça, je ne dis pas parce que c'est un secret.
Qui venait régulièrement, j'imagine, voilà. En plus.
Voilà.
Alors. Moi, votre...
Je ne sais pas, une balance.
Ah, ben, bien voilà. Entendu. Mais c'est bien de le savoir. Moi, votre livre m'a bouleversé. Pourquoi ? Parce que je travaille sur la question de la prostitution, mais la dérive, la prostitution des mineurs. D'accord. Et c'est quelque chose que je ne fais jamais. J'ai écrit une petite note pour vous dire à quel point votre livre m'a intéressé. Toutes les anecdotes qu'il y a dedans m'ont rappelé ce que je vois au quotidien, sauf que les filles que j'accompagne, elles ont entre 11 et 15 ans. Ah. Votre livre, bien que très direct, c'est pas un récit caricatural ni un livre pornographique gratuit. C'est un récit qui parle des marges de la société et de comment la société abuse des personnes qu'elle abandonne elle-même. Les abandonnés souffrent et sont livrés à des pouvoirs obscurs, des pouvoirs qui des fois portent l'uniforme de la République, des pouvoirs qui sont en jogging tout simple ou des pouvoirs qui trônent dans les hauts palais de l'État. Quelles sont les choses que j'ai retenues ? Parce que c'est un ouvrage qui est profondément social. Déjà, c'est un récit authentique de quelqu'un qui a vécu les choses de l'intérieur. C'est un récit hautement humain, parce que l'humanité côtoie la cruauté. C'est un récit de survie, comment exister dans un monde inexistant. Et c'est une fresque sociale du Paris nocturne des années 90. Les années 90, c'est les années fric, les années sida, oui, et ce évidemment. Sont les années de tous les excès. Alors, je voudrais vous dire bravo.
Merci
déjà.
Beaucoup.
Et mes questions très rapidement. Comment allez-vous aujourd'hui psychologiquement ? Est-ce que vous faites encore des cauchemars malgré l'apparat ? On voit que vous êtes quelqu'un, une personne très forte. Vous êtes une personne très forte. Y a-t-il des traumas quand même que vous
écoutez,
gérez ?
Écoutez, vous savez, dans mon livre, c'est pas pour me plaindre. Hein. Mm-hmm. C'est pas pour me plaindre parce que c'est vrai que c'était mon choix de le faire. C'est vrai qu'il y a des choses terribles que ça s'est passé là-bas. Mm-hmm. Il y a des choses vraiment compliquées à vivre mm-hmm. et à voir. Mais bon, la plupart du temps, moi, de mon côté, ça allait parce que moi, je prenais ça vraiment, vraiment, vraiment pour un travail. Mm-hmm. Donc, j'ai arrivé à 22h. À 2h du matin, je partais. J'ai choisi mes clients. Mm-hmm. Voilà, moi, j'étais un TDS, un travailleur de sexe indépendante. Mm-hmm. J'ai jamais été dans des réseaux.
D'accord. Il n'y a pas eu de macro ?
Non, jamais. Au contraire, non. Donc, j'ai jamais de proxénète. J'étais une TDS indépendante. Donc, cette manière de travailler, pour moi, c'est vraiment un travail comme si j'allais dans une autre pays.
Et combien de temps vous l'avez fait ?
J'ai travaillé de 93 jusqu'à 2002-2003.
Et pourquoi vous avez arrêté ?
J'ai arrêté parce que, en fait, ce travail-là, c'était vraiment pas fait pour moi. Voilà. Même si je l'ai fait, puis j'ai du plaisir à le faire. Voilà. Mais moi, je voulais pas être une de plus. Vous voyez, je voulais pas être une de plus. Je voulais vraiment avancer dans le milieu dans lequel j'ai toujours aimé, que c'est le milieu artistique, dans le cinéma, dans le théâtre et dans le spectacle. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc j'ai utilisé cet outil, j'ai utilisé la prostitution pour me payer des formations, des stages justement, pour à la fin, quand j'arrêterai, pouvoir mais inséré dans le milieu du spectacle, dans le théâtre, dans la télévision, dans le cinéma.
C'est voilà. Ce qui s'est passé d'ailleurs, voilà, vous avez commencé à tourner, mais vous avez gagné jusqu'à combien au plus fort de votre carrière, si je puis dire.
C'est très difficile, c'est très difficile.
Ou par nuit, vous pouviez gagner combien ?
Par nuit, je pouvais gagner entre... Enfin, la nuit où j'ai travaillé pas bien, j'ai amené la maison entre 1500 et 2000 francs. Alors, des soirs qui ça marchait très, très, très bien, je pouvais partir avec 6 000 francs, 8 000 francs, voilà.
Mais qui profite, honnêtement, du silence autour de ce monde invisible ? Il y a des gens qui profitent quand même.
C'est-à-dire ?
Ben parce que dans votre livre, vous parlez bien du fait que il y a un système, ça c'est j'utilise mes mots, mais qui abuse de la vulnérabilité de ces personnes par la peur, par la pression, par l'aspect financier aussi.
Écoutez, à cette période-là, ce qui nous faisait peur, c'était la police. Vous voyez, c'était la police justement parce que...
Qui vous interpellait, qui vous arrêtait ?
Alors, il y avait deux tours de la police. Avant minuit, c'était des policiers qui étaient adorables, très gentils. Ils venaient nous voir. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des racailles? Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que vous avez été agressé, volé, tout ça, machin? Ils nous faisaient un contrôle d'identité et puis un PV pour racolage. ok, ça va, ça passe. Mais après les policiers d'après minuit, c'était autre chose. Mm-hmm. C'était le jour et la nuit. Eux, ils étaient vraiment très méchants. Il fallait pas courir. Mm-hmm. Or que moi, quand j'arrivais, je connaissais pas tous les codes, je savais pas du tout comment ça allait se passer. Donc du coup, voilà, on m'a parlé d'un policier qui était vraiment. Quand je suis arrivé, il avait déjà ce surnom. Je suis désolé, mais ça s'appelait Hitler. Voilà, c'était le surnom qu'ils ont donné. Donc, qui était très 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 méchant, mais vraiment très méchant. C'est pour ça qu'il avait ce surnom. Bon, voilà. Et puis une fois, j'ai couru et puis les policiers m'ont rattrapé, m'ont ramené jusqu'à lui. Et puis voilà, c'était à coup de pied dans le panier à salade, comme vous dire à l'époque. Voilà.
C'était la violence des policiers, mais pourquoi? Pourquoi cette violence dans ces cas-là?
Eh ben, j'ai jamais pu comprendre. Un jour, ils m'ont chopé. Une copine à moi, elle m'a dit, oui, vous êtes jaloux parce que ce qu'on fait dans une journée, vous faites dans un mois. Et puis là, c'était des agressions, c'était, voilà. Donc, je comprends pas. Je comprends pourquoi il y avait tellement de TDS, il y avait toute cette, parce que je suis arrivé dans une période très compliquée, non, Yanis?
Oui, parce que Stella est arrivée juste après. Il y a eu une fermeture du Bois de Boulogne. Mmh. Et en fait, et avec un gros coup de filet de la police qui avait renvoyé les prostituées les plus importantes du Bois de Boulogne. Et Stella arrive à ce moment-là dans un bois qui est en pleine reconstruction, mmh, avec plein de nouveaux personnages et la
et
carte
avec une
est en train
répartition
avec
territoire.
Une nouvelle répartition. Voilà. Voilà. Mmh. Mais il faut bien comprendre parce que ce que vous dites, ça peut être. Alors vous avez lu le livre, donc vous avez compris, mais ça peut être mal compris par les auditeurs. Mmh. C'est-à-dire que le Bois de Boulogne, évidemment, n'est pas tenu par une mafia.
Mais il y a une tolérance de toutes les filles qui sont là, quoi. Puisque ça fait combien de temps maintenant qu'il y a de la prostitution dans le Bois de Boulogne?
Le Bois de Boulogne, en tout cas, ce qu'on appelait à l'époque les travesties brésiliennes, elles ont entamé la colonisation du Bois de Boulogne au début des années 80. Elles sont arrivées d'abord fin des années 70 à Pigalle, ensuite elles ont colonisé le Bois de Boulogne, elles ont chassé les femmes. Les femmes biologiques, et c'est devenu un endroit de prostitution travestie et transsexuelle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Stella, quand elle arrive, elle tombe sur cette femme plus âgée qu'elle, transsexuelle brésilienne, qui s'appelle Vera, qui est dans le livre. Et Vera est vraiment ce qu'on appelle une professionnelle. Mm-hmm. C'est-à-dire que Vera, que j'ai pu fréquenter pendant 6 mois, Vera est une femme transgenre qui aime la prostitution
et qui
encore aujourd'hui, oui, alors qu'elle est à la retraite, le dit. Elle dit, mais moi je vais pas rester à rien faire, moi je fais une passe de temps en temps pour me faire plaisir. Et Isidro aussi, qui est dans le livre, et voilà.
Ah bah, il y a une sacrée galerie de portraits dans le livre aussi quand même. C'est, on croise des personnages. Ça interpelle aussi leur parcours de vie, ce qu'ils font.
Bien sûr, c'est une faune de personnages. Le Bois de Boulogne.
Mais c'est ce que je veux dire, pour ceux qui comprennent, ça s'est installé. Maintenant, la prostitution dans le Bois de Boulogne.
Il y a toujours énormément. Mmh, ouais. Et c'est des centaines de filles, hein. Nous, on y retourne avec Stella.
C'est impossible de faire dégager la prostitution pour les gens qui se disent.
Mais elle ira ailleurs.
Oui, peut-être. Si tu veux, le Bois de Boulogne, au départ, on se dit c'est un lieu de promenade, de jogging. On en voit même dans la journée. Le matin, pour ceux qui vont se promener ou dans le Bois de Boulogne, bah, t'as des Kleenex, t'as des capotes. De temps en temps, tu retrouves une chaussure.
Par contre, oui, par contre.
Je le sais par expérience, je vais promener mon chien. Des fois, on se dit, merde, quand même.
Ah ouais, on s'est croisé, voilà.
Voilà, on va dire ça comme ça. Je sais, je vais avoir droit à toutes les vannes, etc. Voilà. Allez-y, Stella, dites que vous m'avez croisé un jour.
Dans ma période, on avait tous des petits sachets là où on jetait les préservatifs pour vraiment dans notre période, c'était vraiment un endroit dans notre coin, hein, parce que le bois elle est immense, mais nous à l'arrêt de la rue Marguerite, on était très on gueulait justement quand une autre fille allait dans notre doigt ou amener les clients, si elle avait laissé des préservatifs ou des papiers tout ça machin, on les engueulait, je disais non, il faut jeter tout dans la poubelle, et puis à la fin on est jeté à la poubelle, voilà.
Donc il y avait une certaine propreté. Jean-Loup Bonamy.
Non, alors bon, je vais poser une question, mais avant j'ai une remarque quand même, c'est qu'il y a eu un petit malentendu. C'est-à-dire que quand on m'a dit qu'aujourd'hui on recevait une personne qui s'était prostituée pendant des années, t'es un peu blasé parce que j'ai cru qu'on allait encore recevoir un politique. Mais mais en fait, je vois encore un politique, c'est très intéressant, ou un journaliste, parce que voilà.
Excusez-moi,
vous êtes quand même une amatrice en termes de prostitution comparée à certains politiques, par exemple ceux qui en 2016.
Tu as des noms.
Leur diatribe. Bah, tous ceux qui en 2016 vomissaient leur diatribe contre Emmanuel Macron
et qui sont allés travailler.
En 2017 sont devenus, sur Stella,
et qui en 2017, sont devenus son ministre. Ça, c'est quand même un autre degré de prostitution que ce que vous décrivez là. Mais plus sérieusement, la question que je vais vous poser, justement, la question que je voulais vous poser sur cette situation, c'est
T'as oublié ta question. Non, non, avec
oui,
ta
j'ai
digression.
Oublié avec ma sortie. Ouais, j'ai oublié, j'ai oublié ma question. Oui, finir, voilà. Hein. Si. Pourquoi autant de personnes d'Amérique du Sud? Pourquoi il y a une surreprésentation, justement, d'origine? Ça semble aussi très lié. Voilà, c'est les deux questions que je vais vous poser. C'est un, ça semble très lié à l'Amérique du Sud, à l'immigration brésilienne. Alors pourquoi une telle spécialisation, une telle surreprésentation? Et ensuite, apparemment, de ce qu'on lit dans le livre, c'est, il y a eu de vraies histoires d'amitié, mais il y a eu aussi des guerres entre travailleuses du sexe dans le bois pour des emplacements. C'est pas toujours un monde de solidarité.
Oui, bien évidemment. Moi, quand je suis arrivé, je me suis battu avec 5 filles qui sont venues complètement m'écartoler à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc, et puis justement, ma maman du bois, Xévera, elle me dit, parce que pendant 3 jours, quand je suis arrivé, pendant 3 jours, on m'a chassé. Donc moi j'étais déjà dans une condition très très compliquée. Donc on me chasse pendant 3 jours. Et puis là ma maman je vois elle me trappe. Elle me dit écoute, aujourd'hui tu vas là-bas, tu vas te battre. Parce que si tu te bats pas, c'est moi qui vais te casser la gueule. Je dis mais dis donc, mais je suis dans le caca total. Et déjà si je vais là-bas, on va me bagarrer. Et là aussi. Donc je me suis dit ok, c'est parti. Donc je suis allé et puis voilà. Donc c'était une bagarre monstrueuse. J'étais obligé de me foutre à poil. Je me suis foutu à poil. Comme Dieu m'a mis au monde, voilà. Et puis j'ai tapé dans les voitures, j'ai caté parce qu'il fallait faire la folle. Voilà, il fallait faire, il fallait pas baisser les bras. Il fallait montrer vraiment une certaine personnalité et caractère, parce que sinon, elle te monte dessus et puis là, t'es foutu.
Mais pourquoi autant de prostitution qui vient
pourquoi
de,
c'est pas des Allemands
qui viennent d'Amérique du Sud?
Oui, de l'Amérique du Sud. Je pense que c'est quand même la pauvreté, l'envie d'une vie meilleure, une vie d'aider sa famille, justement, parce que moi, j'étais dans une famille très pauvre.
Et vous envoyiez de l'argent à l'époque, à votre famille au Brésil.
Bien évidemment, quand vous êtes dans une famille de 10 enfants et que votre père est policier mais il gagne un salaire vraiment minable et votre mère est lavandière et ça vous fait mal au cœur à partir du 15 du mois, il n'a plus rien à manger, vous avez un petit œuf à partager à plusieurs et voilà, donc j'ai voyé beaucoup de souffrance dans ma famille, beaucoup de misère justement, et puis un jour j'ai dit à ma mère, mais je ne pensais même pas qu'un jour j'allais venir en France et pour voir ça, j'ai dit maman un jour je vais avoir tellement d'argent que je vais t'aider, je vais te sortir de ça. Voilà. Et mais puis la vie a fait que voilà.
Mais sur la question de pourquoi les brésiliennes, on l'aborde très 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 légèrement dans le livre, mais il y a une tradition.
Oui, il y a une culture
de transgenre brésilienne et d'Amérique latine qui viennent en France parce que en fait ça a commencé dans les années 70 parce que on pourrait penser que pour les trans c'est beaucoup plus simple l'Amérique latine, mais en fait nous en France depuis les années 60 on avait des stars comme Bambi, Coccinelle, qui étaient à la télévision, à la radio. Coccinelle avait fait le changement de sexe et avait pu se marier avec un homme, et cette Coccinelle avait fait une tournée au Brésil et les brésiliennes avaient vu qu'il y avait une star française.
C'était un
qui
carton
passait à la télé.
Elle a cartonné au Brésil.
Ça fait un carton. Les premières brésiliennes sont arrivées dans les années 70 pour venir dans les cabarets en France. Et quand elles ont vu la prostitution à Pigalle, certaines se sont prostituées, sont rentrées au Brésil avec plein d'argent. Et les autres, comme on appelait ça les travestis, ont vu ça et se sont dit « on va venir en France ». Et là, dans les années 70, toutes les brésiliennes trans sont venues en France. Et la tradition a commencé comme ça. Et ça ne l'a jamais arrêté.
Aller de la Reine Marguerite, souvenir d'une brésilienne du bois de Boulogne. C'est Stella Rocha qui est avec nous, avec Yannis Seziadi. C'est aux éditions du Cherche Midi. Question des GG dans un instant. Laura Varton-Martinez. On continue cette discussion sur les souvenirs donc de la brésilienne, d'une des brésiliennes du bois de Boulogne.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, avec invité des GG, Stella Rocha, souvenir d'une brésilienne au bois de Boulogne. C'est un livre avec Yannis Seziadi. Ça parle de la prostitution dans le bois de Boulogne dans les années 90. Vous avez raconté votre parcours du Brésil, comment vous êtes tombé dans la prostitution. Question de Laura Varton-Martinez.
Oui, alors, moi déjà, votre personnage, je l'ai adoré.
Merci.
Parce que vous êtes un personnage.
Merci
vous
beaucoup.
Représentez un personnage, vous êtes quelqu'un. Moi, je dis ça à des gens. vous êtes quelqu'un, vous êtes réellement quelqu'un. Vous êtes arrivée candide, vous en êtes ressortie battante. Donc déjà, c'est une preuve de courage. Et je voudrais, du fait du respect que j'ai pour vous à cet instant, vous poser une question très franche. Moi, je lutte contre les violences faites aux femmes et sur les violences sexuelles. Et je me demande si la prostitution, parce que vous êtes une femme maintenant, vous nous représentez d'une certaine manière.
Bien sûr.
Et est-ce que la prostitution ne continue pas de mettre une pièce dans la machine où on continue encore d'offrir, même si c'est avec de l'argent, mais vous offrez ce qu'on a de plus précieux, vous offrez notre corps. Est-ce que ça ne continue pas d'alimenter ça? Est-ce que pour vous, les maisons closes, bien que ce soit encore de la prostitution, serait quelque chose qui pourrait commencer à réduire ce champ? Moi, je trouve que malheureusement, quand je passe au Bois de Boulogne, parce que j'y passe souvent en voiture, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur pour vous, même si je sais que la plupart le font volontairement et qu'il n'y a pas un proxénète derrière. Mais j'ai quand même mal au cœur pour vous. Pour moi, je ne vois que le viol derrière tout ça, même si c'est contre de l'argent. Voilà, mais c'est ma vision à moi et du coup, j'aimerais que vous m'éclaircissiez sur le sujet.
Écoutez, comment je pouvais répondre à tout ça? Mais écoutez, c'est vrai qu'à partir du moment qu'on fait ce boulot-là, on est exposé à plein de choses. Moi, je savais très bien à partir du moment que j'ai commencé à faire le travail de sexe, je savais que ça allait m'arriver des bricoles. Comme ça m'est arrivé des agressions, vol de sac, même de viol, j'étais violée par deux policiers. Voilà, j'étais violée par deux policiers. C'est des choses que je savais vraiment.
Ils ont été arrêtés pour ce viol ou pas?
Non, parce que
non.
Vous imaginez.
Tu n'as pas le droit de dire ça. On ne viole pas une prostituée.
C'était pas du tout. Déjà à l'époque, on était obligé d'avoir des visas, donc on était pas dans une situation irrégulière, mais quand même
précaire.
Voilà, précaire. Donc on n'avait pas
du tout. Vous avez été racketté par les policiers?
Ça arrivait pas à moi, mais à des copines à moi, voilà. Mais moi, quand j'ai ce viol-là, c'était vraiment très, 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 très difficile. Et c'était vraiment quelque chose de terrible, parce que pour moi, les policiers, c'est eux qui devaient nous protéger, pas nous agresser et nous violer. Voilà, bon, s'ils m'avaient demandé gentiment, j'aurais fait. Donc, passer par toute cette violence, vous savez. Et puis, voilà, je me suis dit, tu veux continuer, s'il te plaît?
Les maisons closes, êtes-vous
au compte? Les maisons closes, alors moi,
parce que ça alimente les réseaux, ça alimente la prostitution,
les maisons closes, je pense, à mon avis, ça va assiguer à d'autres choses aussi. C'est vrai que ça va être plus régulier, ça va être meilleur.
Moi, je suis pour l'interdiction pure et dure.
Mais beaucoup de filles ne veulent pas de patron.
Oui, mais voilà, c'est ça. Il y aura un autre souci qui va émerger. Donc,
vous avez vu des étudiantes là-bas se prostituer pour gagner leur vie ou pas aussi?
Ah non, pas moi. Pas où je travaille.
Pas où vous étiez.
Non.
Et vous n'avez pas l'impression, pardon, mais de continuer d'alimenter justement cette culture de la femme soumise sexuellement à l'homme?
Mais faut les voir, elles sont pas du tout soumises.
Non, mais moi je l'ai lu. J'ai lu, mais il y a plein de gens qui vont peut-être décide. Pas le lire. Et vous avez un message aussi à faire passer.
C'est Stella qui décide les clients qu'elle prend ou qu'elle prend pas. Elle les fouette. Elles en rient entre elles aussi. Alors il y a des moments que Stella raconte qui sont compliqués, mais vous voyez bien que dans le récit de Stella et des filles qui entourent Stella qui sont dans le livre, c'est des filles qui choisissent de faire ça et qui décident. Qui sont les
vous parlez de vos clients oui. À un moment vous disent mes adorables soumis.
Ah oui.
C'est qui sont les adorables soumis?
Mes adorables soumis, c'est des messieurs très gentlemen, BCBG, voilà.
Plutôt haute
que j'ai
société.
Adoré, hein?
Plutôt haute société.
Voilà, c'est ça. Que j'ai adoré les voir parce que voilà, c'est des messieurs très gentils qui, ont réalisé leur fantasme. Et puis voilà, c'est dans chacun.
C'est quoi comme fantasme?
Chacun son fantasme. Oh ben, en fait, la plupart du temps, ils venaient habillés en femmes. Et style, comment dire, tout en vinyle, tout en cuir. Voilà, en fait, il y a. C'est. Comment je peux vous dire, leur fantasme, c'est de se faire fouetter, marcher dessus.
Mais ça se passe en pleine nature.
En pleine nature, à l'intérieur du bois. Voilà, donc je les attachais à l'arbre,
c'est bucolique.
J'ai les fouetté, et puis. C'était bien parce qu'il n'y avait pas de relation sexuelle, c'était un petit jeu entre nous qui était très, très, très bien payé. Et puis.
C'est payé combien? Parce qu'à l'époque,
c'était payé 500 euros à l'époque.
À 500 euros.
Voilà. Ouais. Or que 500 euros dans une voiture, c'était le prix à l'hôtel.
Et ça a duré combien de temps, 500 euros?
Oh, après, c'est nous qui décidons. Hein.
D'accord.
Au moment qu'on avait marre, on décidait. Puis voilà, c'est fini. De toute façon, c'est soumis, il n'a pas le droit de dire rien.
D'accord. Parce qu'en fait, sur votre fiche, il y avait marqué Stella, la plus brésilienne de Paris, active, passive, sans tabou. 21 cm solide et épais.
Waouh.
Ben, ça, c'est ce qui est écrit dans les. Ça, c'est avant l'opération.
Alors, ça, c'était mon annonce. Après, parce qu'en fait, quand j'ai commencé, il y a eu l'ère Internet. Voilà. Donc, ça, c'était mon annonce sur Niamodel, sur un site d'escorte.
D'accord.
Parce que quand je ne travaillais pas, après, quand j'ai arrêté le bois, je faisais l'annonce sur Internet, puis quand je ne travaillais pas à la maison, je retournais au bois. Voilà.
Il y avait plus de clients grâce à Internet ou au bois ?
Il y avait plus au bois, bien évidemment. Mais après, sur Internet, on était chez nous. Mais attention, même si on était chez nous par Internet, ça n'empêchait pas de se faire agresser à la maison.
Ouais.
Moi, j'étais cambriolé 4 fois. 4 fois, moi, cambriolé à la maison.
D'ailleurs, il y a beaucoup de filles avec qui on est toujours en contact, qui travaillent toujours au bois, qui disent qu'elles préfèrent travailler au bois que chez elles, parce que chez elles, un mec rentre, si elles se font agresser, elles se font agresser, tandis qu'au bois, et on le raconte, bois, les filles ont un cri de
ralliement. On a notre cri de guerre qui s'appelle Todas. Et à partir du moment où on dit Todas, il faut que tu arrêtes si tu entres avec un client, tu arrêtes de le faire, et tu vas aider la personne qui a demandé de l'aide. Et si tu ne viens pas, après, la personne aura un sale quart d'heure.
Mais,
parce qu'on est solidaires entre nous. Donc si moi j'ai un problème, j'écris todas, ça veut dire toutes. Donc il faut que tout le monde vienne. Et si la fille ne vient pas, après on va les prester.
Et vous êtes déjà battu avec des clients ou pas?
Oui, je me suis battu. En fait, une fois, il y a quelqu'un qui est sorti de dans le bois parce que j'ai pas voulu le prendre, je voulais pas aller de lui. Il était très en colère et du coup, il m'a sorti un sabre.
D'accord.
Et ça s'est terminé comment?
Mais ça s'est terminé en fait. Nous, de notre côté, à chaque fois, dans notre travail, pour se protéger, autour de nous, on cachait des pierres, on cachait des ça peut être même des armes blanches, des grosses pierres. Donc, quand j'ai vu qu'il a sorti là, le sabre, qu'il a traîné par terre comme ça, qu'il y a le feu qui a sorti de son sabre, je me dis, oh my gosh, qu'est-ce que je vais faire? Donc, du coup, je suis allé derrière moi, j'ai pris pas mal de pierres, et puis j'ai commencé à le lancer des pierres. Il faut pas montrer la peur. Hein. Si tu montres la peur, c'est pire. Ouais. Donc, j'ai parti sur lui.
Mais on va voir. J'ai
une question, puisqu'on en est justement sur la sociologie des clients. Est-ce que c'est vraiment un milieu, la clientèle 100% masculin, sans exception, ou est-ce qu'il y a aussi des clientes?
Alors,
non, c'est un monde uniquement masculin.
C'est uniquement masculin à 100%, voilà. Mais j'ai eu de clientes femmes aussi, mais qui sont venues avec leur mari, bien évidemment.
Ah, d'accord.
Et ça se passe comment alors dans ces cas-là?
Ben, très bien, très très bien.
Alors, mais attendez.
Ça se passe très bien.
Non, je veux comprendre.
Clientes seules, non.
Il y a des femmes qui viennent en.
Il y a des femmes qui aimeraient avoir une expérience avec leur mari, pas avec une vraie femme biologique, bien évidemment, mais une femme transgenre, voilà. Mais, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs.
Mais dans ces cas-là, c'est quelle est la prestation demandée?
Elle regarde, elle participe.
Alors, ça m'est arrivé que la femme voulait juste regarder. Voilà, et d'autres fois, elle a participé aussi. C'était délicieux.
Bah, vous savez, est-ce que ça vous dit que Stella reste encore avec nous? Est-ce qu'on a encore des questions à poser?
Ah, oui, oui.
Vous pouvez rester 5 minutes avec nous parce que, du coup, on a.
Non, non, mais tu vois que c'est plus intéressant que les politiques.
Je sais bien, mais c'est. Mais du coup, m'avait perturbé. Parce qu'on n'a pas posé de questions sur l'interdiction de la prostitution, l'interdiction du racolage, ce que ça a provoqué, justement, comme changement. Et puis, il y a des questions aussi, peut-être, au 32-16 qui vont arriver, de prostituées qui écoutent aussi. Allez, à tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
Les GG, avec aujourd'hui le témoignage de Stella Rocha, souvenir d'une Brésilienne au bois de Boulogne, aux éditions du Cherche Midi, le livre Aller de la Reine Marguerite, écrit, parce que l'enquête est aussi faite par Yannis Eziadi, qui est avec nous. Il y a la violence, on le dit dans ce livre, il y a aussi la drogue. Vous-même, vous avez été dans la drogue.
Oui, moi, alors, pas pendant la période où j'ai travaillé au début du bois. En fait, la drogue m'a tombé dessus, vraiment à la fin. C'était vraiment à la fin, par rapport à une déception amoureuse. Voilà.
C'est donc, le crack.
J'ai tombé dans le crack, oui. Pendant 2 ans, c'était la seule façon, c'était la seule manière de ne pas pouvoir penser à cette personne, de un peu libérer. À partir du moment que j'ai pris mon premier. Tout de suite, toute la souffrance, tout cette désarroi, toute cette tristesse,
dépression.
Voilà, se sont envolés d'un coup. Et du coup, je me suis accroché à ça pendant 2 ans.
Et puis, vous parlez des chirurgiens aussi, parce que souvenir d'une Brésilienne au bois de Boulogne, mais maintenant on dit transgenre.
C'est la, c'est
et
la...
vous passiez le mot entre les filles de quel chirurgien pouvait opérer. Quoi. Alors, tout certains n'avaient pas de bonne réputation, il y en a même un qui s'est surnommé le boucher.
Tout à fait.
Ouais, pour les seins. Pour les seins.
Alors, à ma période, dans les années 90, il y avait trois médecins qui étaient très connus dans notre milieu. Il y avait le boucher, voilà, qui était le docteur Leroux à l'époque. Sa clinique était complètement sale, les matelas, le matelas était épais comme ça. Donc, aucune hygiène, mais il faisait des seins magnifiques. Et puis, les coupures,
les cicatrices
en bas des seins, c'était vraiment très grossier, mais ses seins, c'était le plus beau. Ensuite, après, il y avait le deuxième, c'était Dr Fabry. Dr Fabry aussi, il faisait aussi par en dessous de la poitrine, mais c'était des seins très jolis. Donc, le boucher, il coûtait 6 000 francs. Dr Leroux, Fabry, il coûtait 18 000 francs. Et celui-là, dans lequel je me suis fait opérer, qui s'appelait Dr Delerme, c'était le plus cher à l'époque. J'ai payé 25 000 francs. C'était le meilleur. Et j'ai fait avec lui parce que la cicatrice, il faisait une demi-lune autour de téton. C'était une demi-lune, oui. Et là, il introduisait la prothèse. Et à l'époque, c'était interdit le silicone. Donc, j'ai mis des prothèses de sérum physiologique.
D'accord. Voilà. Question, Jean Louis Ami.
Comment est-ce que vous avez changé de vie? Puisqu'après, on a dit, vous êtes entré dans le milieu du cinéma. Et comment est-ce que ça s'est fait, à la fois la sortie et en même temps l'entrée dans un nouveau milieu, à savoir le cinéma?
Mais de toute façon, depuis le début que je rentrais dans le travail de sexe, dans la prostitution, j'ai aussi inclus des associations, parce que moi je suis quand même une personne qui adore fréquenter les associations. J'ai fait un travail culturel dans l'association, voilà. Et puis à cette période-là, il y avait Josène Balasco qui a contacté notre association parce qu'elle cherchait une actrice transgenre pour son film. Donc du coup, le docteur Camille Cabral a dit Stella, voilà, toi qui as toujours voulu faire du cinéma, voilà une bonne opportunité.
Et donc
pour toi.
Casting.
Et donc je suis allé passer le casting et on était plusieurs. Et puis j'étais prise pour le casting. Et autre chose aussi que c'était incroyable de la part de Josène Balasco, qui c'était une personne qui était formidable. Le scénario était d'une prostituée de Bad Boulogne. Et moi, je suis arrivé, j'ai demandé un rendez-vous avec elle et je lui ai dit, Josiane, est-ce qu'on peut pas changer? Pourquoi à chaque fois que les réalisateurs pensent à nous, les femmes transgenres, c'est toujours prostituées, putes, travailleuses de sexe? Pourquoi pas une artiste de spectacle, tout ça? Elle m'a dit, Stella, tu sais, tu as raison. Donc, elle a changé le scénario par rapport
à ça. Et est-ce que votre famille, vos amis au Brésil ont vu les films dans lesquels vous avez joué, savent que vous êtes une actrice en France?
Écoutez, j'ai eu la chance que le film que j'ai fait avec Gaspard Noé qui s'appelle Love, dans lequel j'ai été au Festival de Cannes et qui a fait un carton, s'est passé chez moi au Brésil, dans ma ville. Mais j'ai dit à mes frères et sœurs de ne pas amener ma mère parce que j'ai une scène complètement nulle là-dedans, un sexe à trois. Donc, mais tous mes parents, toute ma famille est partie voir, ils ont adoré.
Mais aujourd'hui, votre famille qui est au Brésil, c'est tout de vous aujourd'hui, qui vous êtes devenu.
J'ai jamais caché. D'ailleurs, il y a pas mal de ma famille aussi qui sont en France aujourd'hui, voilà. Et j'ai jamais caché parce que au départ, j'ai pas dit à mes parents, voilà, j'ai fait la prostitution, je voulais pas les décevoir, voilà, parce que c'était quelque chose de qu'ils m'ont dit quand je suis parti de chez moi, voilà, ne tombe pas dans la prostitution, ne te drogue pas, et fais attention avec qui tu traînes, voilà. C'est trois choses qu'ils m'ont dit, c'est trois choses que je l'ai fait, voilà, malheureusement. Et puis.
Mais vous en êtes sorti aujourd'hui. La prostitution, c'est complètement fini. Ou pas?
Ah oui, c'est complètement fini.
Et
depuis
comment ils
années.
Ont réagi justement, vos parents?
Depuis des années.
Non, mais vous êtes toujours lié à ce milieu, vous avez des contacts, vous avez des amis.
Écoutez,
la page est définitivement tournée.
La page est définitivement tournée, mais j'ai gardé des très bons amis de cette période-là. J'ai encore des clients d'aujourd'hui qui sont des bons amis. Qui me présentent leurs petits-fils, leurs enfants, leurs femmes. Oui, tout à fait.
Attends, alors là, faut expliquer comment ça se passe.
Ah oui, tout à fait.
Sans dire qu'ils ont été vos clients.
Pardon?
Sans dire qu'ils ont été vos clients.
Quelques-uns sans dire, oui, tout à fait.
Voilà, sans dire.
Ouais.
Mais
d'autres
mais
ne se cachent pas du tout, voilà. Et d'ailleurs, leurs femmes, elles sont très heureuses de savoir qu'ils ont passé par nos mains, parce qu'au moins, comme ça, elles savent déjà tout, ils ne font pas
parce qu'en même temps, il y a un côté professeur. C'est ça, vous avez appris.
Dans la prostitution, nous ne sommes pas que des travailleurs de sexe. On est psychologue, on est psychiatre.
C'est vrai? Il y en a qui viennent pleurer chez vous.
Il y en a pas mal qui nous payent juste pour une oreille attentive, pour leur donner des conseils dans leur couple. Ah oui, il y a de tout.
Mais par rapport au milieu politico-économico-médiatique qui était très friande dans les années 90, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils consomment toujours autant?
Oh, je...
Est-ce qu'il y a encore des personnalités clients ou pas?
Bien évidemment, mais aujourd'hui, c'est sur Internet. Maintenant, ils vont plus au bois, je pense. Enfin, je sais pas.
Bah, depuis l'apparition des téléphones, il n'y a plus les personnalités politiques ou médiatiques vont plus au bois de Boulogne. Mais non seulement il n'y a plus les personnalités politiques et médiatiques, mais il n'y a plus... Parce que le bois que Stella raconte dans le livre, c'est le bois donc des années 90 où Stella a la chance de bénéficier de ce qu'elle appelle les bons clients, des gens bien éduqués, avec de l'argent qui paye bien. Aujourd'hui, ces bons clients ne sont plus tellement en bois de Boulogne.
Qui va au bois de Boulogne alors?
C'est beaucoup de jeunes. C'est la majorité des gens que vous voyez, c'est entre 18 et 30 ans. Ouais. Et c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Donc les filles gagnent moins qu'elles gagnaient avant. Ça, à cause de quoi? C'est depuis notamment la pénalisation des clients et les maris n'ont pas envie de
d'avoir. Qu'est-ce que ça a provoqué la pénalisation des clients alors?
Pour le bois de Boulogne, les filles disent que les bons clients sont partis. Puisque il y a plus de bons clients, puisqu'ils ont peur de recevoir l'amende à la maison et que leur femme découvre. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il n'y a plus que des jeunes. Il y a aussi beaucoup de racailles quand même qui viennent foutre le bordel et qui raquettent les derniers bons clients qui viennent.
Alors justement, qu'est-ce que c'est qui sont ces jeunes qui viennent foutre le bordel, racketter?
Alors vous savez, la racaille, c'est il y a de tout. Hein. On peut pas dire voilà la racaille c'est qui cela. Non, il y a de tout. Il y a de blanc, de jaune, de vert, de il y a de tout. Il y a de tout. Et en ce moment, depuis qu'on a retourné au bois justement pour que mes souvenirs
reviennent,
voilà. Donc j'ai discuté beaucoup avec des filles. Alors aujourd'hui, c'est complètement différent de mon époque. À mon époque, il fallait se cacher, il fallait être discrète, il fallait vraiment.
Là, c'est aux yeux.
Voilà.
Aux yeux,
hein. Voilà. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Mmh. Alors.
Des feux de camp,
des guirlandes dans tous les arbres, presque,
pour indiquer. La musique à fond,
pour indiquer qu'elles sont là.
Et donc, des classiques, accrochées à la branche.
Et surtout, ce qui se passe en ce moment, c'est des agressions très, très, très violentes aux clients. Voilà, des jeunes racailles, des jeunes qui viennent de banlieue, ils cassent les voitures des clients, ils volent les clients, ils raquettent les filles. Voilà, ça c'est quelque chose qui ça se passe en ce moment et qui est toutes les
donc les associations... Les filles sont plus en danger qu'à votre époque ou pas?
Je sais pas vous dire parce que je sais que là, le danger elle est toujours là. Le danger est toujours là, les agressions sont toujours là, les meurtres sont toujours là, parce que voilà.
Vous avez commencé, il y avait le tueur du bois de Boulogne quand vous avez commencé.
Tout à fait. C'était la panique dans tout le bois de Boulogne. Il y a des filles qui venaient plus travailler. Il y a d'autres qui achetaient des armes pour se défendre.
Il y a eu plusieurs assassinats en série. Voilà.
Et vous êtes battu plusieurs fois, vous ou pas?
Moi, je me suis battu plusieurs fois. Plusieurs fois, avec des trans, avec des hommes, avec de la racaille. Une fois, je suis arrivé du travail, parce que notre dilemme, c'est on laisse jamais une amie en galère. Donc, une fois, je suis arrivé du travail à 22h, comme d'habitude. Et moi, j'arrivais toujours par le côté Roland-Garros, par derrière le bois. Parce que, comme ça, je regardais tout ce qui s'est passé. Voilà. Et puis, comme ça, je pourrais aller tranquille travailler. Et ce jour-là, j'arrive. Ils étaient une quinzaine de racailles sur une copine à moi. Sur une antillaise. Je me suis dit, oh my gosh, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me suis préparé psychologiquement et corporellement. Voilà, donc j'ai gardé mon sac, j'ai enlevé mes talons et j'ai rentré à la bagarre. Sauf que quand je suis rentré à la bagarre, ils sont tous venus sur moi et ma copine est partie au courant. Elle m'a laissé au sol.
Et vous avez survécu quand même, quoi?
Eh bien, j'ai survécu, bien évidemment. J'ai chopé un avec moi et celui-là, il n'est pas parti.
Et avez-vous des regrets par rapport à cette période? Est-ce que s'il fallait recommencer, vous recommenceriez?
Écoutez,
parce qu'on ne tombe pas dedans, ce n'est pas un rêve d'une vie, c'est toujours une succession d'accidents qui fait que malheureusement, on se retrouve dedans. Parce que vous parlez justement de cette survie, survivre dans un monde inexistant.
C'est ça, moi je pense que c'est ça pourrait le faire, je le ferai à nouveau, la même chose. C'est ça qui m'a fait forger mon caractère et ma personnalité. Par contre, si j'ai des regrets, oui, j'ai des regrets. Quoi par exemple? Quand j'ai fait mon corps au silicone, voilà, que j'ai tombé dans un guet-apens, voilà, j'ai tombé sur une personne qui se disait vraiment médecin et qui m'a détruit le corps. Voilà, j'avais un très très beau corps.
Très bien. Hein.
Voilà, et puis quand j'ai fait la féminisation du corps, parce que...
Vous êtes complètement femme là aujourd'hui.
Si tu ne faisais pas la féminisation du corps, si tu ne mettais pas le silicone dans ton corps, ça voulait dire que tu n'étais pas une femme. pour notre communauté transgenre. Donc, j'étais toujours traité de, t'es toujours un mec avec des seins, ton corps de mec, musclé, rombo, machin. Donc, j'ai subi cette opération qui s'était fait dans une chambre d'hôtel. Voilà. Dans des conditions vraiment déplorables. Voilà. Et puis, la personne qui m'a mis le produit m'a assuré que c'était un produit médicinal, même si c'est pas bon, mais en réalité, elle m'a mis de l'huile de moteur d'avion dans le corps.
Parce que c'était de l'injection de silicone à même les cuisses.
C'était pas des prothèses, c'était vraiment l'injection, et je vous raconte pas comme c'était.
Mais aujourd'hui,
douloureux.
Vous êtes heureuse, vous avez trouvé l'amour, vous êtes en couple.
Je suis célibataire. J'étais mariée, ça dit dans le livre, mon premier amour, 10 ans. Ensuite, je me suis mariée avec quelqu'un, ça a duré 8 ans, et depuis, je suis célibataire.
Ah, mais c'est une annonce en même temps.
Voilà.
Dernier mot, Yannis.
Je regarde l'émission.
Je voulais juste dire aussi que grâce au témoignage et au récit de Stella, en dehors du côté romanesque et fascinant évidemment de ce monde bizarre, ça raconte vraiment 15 ans du Bois de Boulogne dans les coulisses, dans les secrets, et c'est vraiment quand même le plus grand bordel de France, et c'est un témoignage très important historiquement, à mon avis, dans l'histoire de la prostitution.
Je voulais juste dire que la prostitution, c'est pas un monde beau et merveilleux.
Non.
C'est quelque chose de vraiment de terrible que je ne souhaite à personne. Voilà, c'est dangereux, c'est vrai qu'on gagne de l'argent, mais c'est dangereux. Je ne conseille personne à le faire. Voilà.
Dans tous les cas, lisez ce livre. Merci au témoignage de Stella Rocha avec Yannis Iziadi, et vous ferez connaissance avec Suzy qui était radiée de l'armée de terre chinoise, s'est retrouvée dans le bois de Boulogne. C'est un militaire de l'armée chinoise. Marine Tondelier, qui est la patronne des écologistes, qui veut la création d'un congé climatique 5 jours par an, congé payé climatique.
Oui, ce droit nouveau permettrait aux travailleurs de ne pas se rendre au travail en cas d'événement climatique extrême, et ce, sans être financièrement pénalisé. En fait, elle veut s'inspirer du modèle espagnol mis en place après des inondations meurtrières en 2024. À l'époque, plusieurs entreprises avaient été vivement critiquées parce que elles avaient maintenu leurs salariés au travail alors qu'il y avait une alerte rouge météo, et il y avait plutôt un danger à se déplacer, à prendre sa voiture pour aller travailler. Et donc en réponse, à l'époque, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez avait approuvé un congé climatique de 4 jours, alors c'est un peu moins que Marine Tondelier a dit 5 jours, payé par l'État, auquel peut succéder une période de chômage partiel. À partir du moment où une autorité, quelle qu'elle soit, indiquera qu'il y a risque dans les déplacements, les salariés devront s'abstenir d'aller travailler, une sorte de confinement payé par la société. Est-ce que c'est une bonne idée, ce congé climatique ?
On ne pourra pas dire qu'Anna Marshall et Olivier Truchot n'ont pas le sens du crescendo, parce que là, comme sujet, c'est vraiment le bouquet final. Madame Tondelier est devenue tellement inaudible qu'elle est obligée de frapper de plus en plus fort pour tenter d'attraper l'opinion. Mais là, elle va sur quelque chose qui n'a aucun sens économiquement ou socialement. J'ai eu l'honneur de diriger 6 entreprises, deux par Catem, le Puy du Fou et le Futuroscope, et 4 entreprises industrielles dans des secteurs différents. Alors je peux parler des situations de canicule ou des situations d'exploitation difficiles en lien avec les salariés. Les entrepreneurs français qui nous écoutent, les commerçants, quelle que soit leur activité, ils n'ont pas besoin des objurgations de Mme Tondelier pour trouver des solutions. Les solutions, déjà la loi oblige par exemple à mettre de l'eau à disposition, comme si les patrons, je vais faire un peu du Charles Consigny, allaient laisser crever de soif leurs collaborateurs. La loi a obligé à mettre des bouteilles d'eau à disposition en cas de température, je crois, supérieure à 25
degrés. On peut adapter aussi les horaires, ça existe déjà, notamment dans le BTP.
Les salariés, par exemple, dans les entreprises industrielles, c'est eux-mêmes qui sollicitent leur hiérarchie pour adapter les horaires et travailler, comme on dit en bon français, à la fraîche. Donc, on n'a pas besoin des politiques en la matière. Et quand les locaux sont très chauds, on met éventuellement des ventilations, on autorise un dérèglement des tenues qui peut aller jusqu'aux shorts ou des choses vraiment très, très, très estivales pour la canicule.
Donc, laissons faire dans les entreprises, pas besoin de se congé.
Voilà, tout ça n'a aucun sens. Et être représentant politique et aller sur ce type de proposition, en prenant un faux exemple étranger, car tu l'as dit, c'était dans le cadre d'une crise ponctuelle et sur quelques entreprises, en prétendant qu'il y a une référence à développer, c'est pitoyable.
Flora.
J'aurais pas proposé cette idée pour remettre l'écologie sur la table, parce que déjà, ça existe déjà. Il y a des confinements écologiques en Inde quasiment chaque année, malheureusement, et ils durent de plus en plus longtemps, tout simplement parce que l'air est irrespirable en Inde certaines semaines dans l'année. Et il y en a eu aussi en Espagne. Et évidemment qu'en France, s'il y a des inondations ou une grosse canicule, il faudra qu'on fasse des efforts. Ceci étant dit, le sujet est très intéressant puisque dans les années à venir, par exemple, les ouvriers de chantier, il y a une étude Paris 2050 qui montre qu'ils pourraient faire canicule sur 2 mois consécutifs d'été à Paris. 2 mois, c'est pas 2 jours. 2 jours, il y a une inondation, bon bah on fait un effort. Là, ce qui est intéressant, c'est de calculer combien ça va coûter à la collectivité de mettre à l'arrêt l'économie pendant 1 mois, 2 mois, comme le Covid. La France est complètement amorphe économiquement à cause du Covid et à cause du quoi qu'il en coûte. Si il faut se préparer à un confinement écologique chaque année dans les années à venir, imaginez que pendant 2 mois on soit tous à l'arrêt. Notre système est intenable, insoutenable. Et c'est exactement le même sujet que le pétrole à Hormuz, c'est-à-dire que on se prépare pas aux vulnérabilités de notre système. Donc l'idée de fond, elle est bonne, c'est-à-dire il faut se préparer aux vulnérabilités. Sur la forme, dire encore des congés payés, encore 5 jours, je pense que c'est inaudible et que c'était pas la bonne idée. Ceci dit, Jean-Marc Jancovici proposait à l'époque du Covid de mettre déjà en place un confinement écologique, parce que je sais pas si vous savez, mais en 2020, on a respecté les limites planétaires. C'était la seule année depuis les dernières décennies où on a respecté en arrêtant tout. Et donc aujourd'hui, on en est à un stade où on risque tellement gros qu'il faudrait se mettre à l'arrêt 2 mois par an.
Charles Consigny, tu es pour, j'imagine, ce congé payé climatique.
Non, mais on est au cœur de la névrose française. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment cette... Pardon ?
En Inde, ils le font.
Oui, bien sûr, mais comparons la France et l'Inde. On est vraiment deux pays comparables, donc c'est un bon indicateur. Je constate une espèce de haine du travail chez un certain nombre de gens aujourd'hui, chez un certain nombre de responsables politiques, de journalistes, de jeunes. Il y a un tas de gens qui vraiment détestent le travail et qui essayent par tous les moyens de l'éviter, de l'interdire, de permettre qu'on puisse s'y soustraire ou de le spolier. Voilà, c'est une espèce de détestation comme ça, et une ambiance. Moi, j'ai déjà vu effectivement des bureaux de poste où il y avait écrit fermé pour cause de grosse chaleur, par exemple. C'est trop chaud, donc on vient pas travailler. Je pense que ça se passe même de commentaires, à vrai dire, cette proposition. Il y a beaucoup de pays dans le monde très performant, où on travaille même par temps très chaud, aux Émirats Arabes Unis par exemple. Alors oui, c'est vrai, ça implique de climatiser les bureaux, voilà. Mais ça, les bureaux climatisés, ils existent même à Paris, fort heureusement d'ailleurs. Les magasins climatisés, tout ça, ça existe. Je pense que si on prend la pente voulue par Madame Tondelier, le problème, disons les choses comme elles sont, si demain on met en place toutes les idées de Madame Tondelier, mais en un an, la France devient un pays du tiers-monde. Il faut dire les choses comme elles sont. Si tu mets en place le programme de Tondelier, en un an, la France est un pays du tiers-monde. Donc, je trouve que c'est des conneries, honnêtement. Ça se passe de commentaires.
Non, mais tu as raison, Flora, de dire qu'il va falloir s'adapter à ces chaleurs, ces fortes chaleurs, ça c'est vrai. On le voit bien, même quand on se dit, est-ce qu'il faut continuer à faire passer les examens en fin d'année pour les élèves, le bac au mois de juin, alors qu'il y a maintenant une canicule qui est chaque année. Oui, mais le problème, c'est que la réponse, c'est la réponse de Madame Tondelier, parce que déjà, elle nous dit pas comment elle finance. Moi, je trouve que les hommes politiques, les responsables politiques, qui mettent en avant un nouveau droit social et qui ne sont pas capables de nous dire comment on le finance, ne sont pas crédibles. Je veux dire, elle n'est pas crédible. Dans un pays endetté, on peut pas dire on va vous donner un nouveau droit, mais alors le financement, on verra. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment une question de crédibilité, même d'intelligence pour les gens qui écoutent. Parce que les gens qui nous écoutent, ils se sont dit bon, très bien, mais comment on va payer ces congés? C'est
mais
la première.
Mais en plus,
deuxième chose, je suis pas sûr que le non-travail soit l'adaptation au monde. Il va falloir qu'on vive.
On va faire quoi? On va fermer les magasins.
Mais si on ne travaille plus,
oui, enfin, sur le dérèglement climatique, s'il est à 3 degrés ou à 5 degrés, c'est pas la même chose.
le modèle social que chérit sans doute Marine Pondelier, il est mort. Donc en fait, tout ça n'a pas de sens. En fait,
on va fermer les magasins au mois d'août parce qu'il fait trop chaud. C'est tirer une balle. Non, mais on fera peut-être comme dans les pays chauds. Vous allez par exemple, je sais pas, en Grèce, en Grèce ou en Espagne,
les pays. On décale les horaires.
Bien sûr, les magasins sont fermés en début d'après-midi, ça rouvre vers 16-17 heures. Et en revanche, c'est ouvert plus tard. Mais ça, il faudra qu'on accepte en France qu'un magasin puisse être ouvert au-delà de 21-22 heures. Oulala, un magasin ouvert le soir, quelle horreur. Ça, Tondelier va pas l'autoriser. Hein. Elle va, non. Donc bon, franchement, on peut dire que c'est con quand même. Moi, je trouve qu'on a le droit de dire que c'est con. C'est une idée conne. Il faut dire les choses comme elles sont.
Des idiotes.
Ouais, enfin,
bêtes.
Idiotes, si tu préfères. Ouais, c'est stupide. C'est une idée stupide.
Voilà. Pas la mesure. Mais qui n'a pas de sens, on va dire même. Qui n'a pas de sens. Mmh. Voilà. On va dire ça comme ça. Est-ce que vous êtes pour un congé payé climatique, oui ou non? Qu'en dites-vous? Attention, 3, 2, 1, 0. Congé payé climatique, non à 83%.
RMC jusqu'à midi, le meilleur des grandes gueules.